L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 9h. Les cloches retentissent au loin depuis le cœur de la ville. Nous sommes à Rouen, le 30 mai 1431. À l'époque, la ville est la capitale du duché de Normandie, alors en possession anglaise. La musique lugubre résonne entre les murs froids de la cellule. Ici, tout est humide, l'air est glacé. Les cloches, elles sont porteuses d'une annonce funèbre. Ça y est, c'est l'heure. 9h, l'heure de la dernière heure. Bientôt, ils viendront chercher la jeune femme assise dans un coin de la pièce, à même la pierre. Bientôt, ils viendront la chercher. Pas pour la délivrer, non. Et lui rendre sa liberté. Quelques minutes, ne serait-ce que quelques minutes, ils viendront la chercher, pas pour lui couper la main, ni même la faire monter sur l'échafaud et que le bourreau de sa lame assassine lui tranche la tête. Non. Ils vont venir la chercher et j'entends le bruit des bottes dans le couloir. Ils viennent la chercher pour la brûler vive, sur le bûcher, au beau milieu de la place publique. Il est 9h, c'est leur hache de mon histoire. Celle dont je vais vous raconter l'histoire est avant tout connue pour sa mort. Une mort violente, restée légendaire, inscrite dans les mémoires. Connue, elle l'est ensuite pour les voix qui, dès son plus jeune âge, se sont adressées à elle et qui ont fait d'elle une folle, une hérétique. Tous connaissent le bûcher et les apparitions divines, mais rares sont ceux qui connaissent son histoire. Entre conquêtes militaires, installation du roi Charles VII sur le trône et canonisation posthume par l'Église catholique, sa courte vie a marqué l'histoire de France. Pour beaucoup, elle en est même une héroïne. Celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, une des figures historiques parmi les plus célèbres au monde. De nombreuses adaptations et représentations ont vu le jour dans toutes les langues et dans tous les domaines. On ne compte plus les biographies, les mangas, les BD, les films et autres romans relatant ses exploits, sans oublier les tableaux mythiques, peints par des grands noms du genre, Ingres, Buffet ou encore Rubens. Au fil des siècles, ce personnage universel a exercé un pouvoir de fascination tel que les productions artistiques à son sujet semblent n'avoir jamais cessé. Et parfois, le mythe a pris le pas sur la réalité historique. Ah, il est vrai qu'elle a de quoi fasciner, cette histoire extraordinaire dont le commencement se situe au début de l'année 1412. Le 6 janvier 1412, Jeanne voit le jour à Domrémy, un village du duché de Barn, actuellement dans le département des Vosges, en Lorraine. Elle naît dans la maison familiale, attenante à l'église du village. Certaines sources la décrivent comme issue d'une pauvre famille de paysans. Il n'en est pourtant rien. Son père est laboureur, mais la fratrie d'Arc est en réalité assez aisée. Au Moyen Âge, les laboureurs sont en fait des propriétaires exploitants. Son père, Jacques d'Arc, possède une vingtaine d'hectares de terre, des prés, des bois, des terres arables, mais aussi sa maison, ses dépendances et des bêtes. Les d'Arc font en fait partie des notables de Domrémy. À partir de 1423, le patriarche occupe d'ailleurs le poste de doyen du village qui lui confère les pouvoirs de procureur et de percepteur. Les enfants d'Arc sont au nombre de 5 et vivent une enfance tout ce qu'il y a de plus normal. Rien ne laisse présager dans les 10 premières années de vie de Jeanne le destin héroïque qui sera le sien. Enfin, presque. L'enfant, dès son plus jeune âge, se distingue de ses camarades en raison de sa profonde piété. Piété qui lui vaudra d'ailleurs les moqueries des bambins du village, qui s'écrient Eh, et regardez, c'est Jeanne la Bigotte. Ouais, Jeanne la Bigotte. Eh, on répond. Tu vas à l'église voir le curé? C'est ton seul ami, hein, le curé. Bigotte, Bigotte. Mais qu'importe. Ces mesquineries ne détournent pas Jeanne de sa foi. Tous les samedis, elle aime se rendre à l'église. Et le dimanche, c'est le jour du pèlerinage dans une chapelle environnante, tenue par des ermites. C'est son moment préféré. Bref, rien de bien extraordinaire pour une jeune fille de son âge. Mais c'est sans compter une journée de 1425. À l'époque, Jeanne a tout juste 13 ans. Elle est chargée, comme cela arrive de temps en temps, de conduire les bêtes au pré. Autour d'elle, les moutons s'éparpillent, marchant à droite et à gauche du chemin de terre. La jeune fille aime ces instants de méditation, que rien ne peut troubler. Bercée par le tintement des sabots sur la roche du chemin, elle se retire du monde. Elle profite du calme, des paysages méditatifs. Jusqu'à ce que... Mais enfin... Regardez là, c'est pas un mouton là-bas au loin qui s'éloigne? Ah bah heureusement, Jeanne le remarque à temps. Toujours plus téméraire que les autres, Jeanne l'a surnommé Roger. Et comme à son habitude, Roger sort des sentiers battus, se détache du troupeau et désire partir à l'aventure. Non mais, Roger! Roger, reviens! Jeanne se lance à sa poursuite. Mais alors qu'elle rappelle à l'ordre le mouton, qui fait mine de ne pas entendre la jeune fille à courir derrière lui, elle est soudain tirée de ses pensées. Un bruit au loin, une voix. Oui, une voix, oui, c'est ça. Une voix qui semble résonner. Un chuchotement qui l'appelle. Jeanne. Jeanne. Et tout à coup, une étrange lumière semble posséder tout le ciel. Jusque-là, les environs étaient gris. Les nuages plafonnaient l'horizon. Un battement de cils plus tard, un halo de lumière chaleureux apparaît devant elle. Jeanne s'arrête, essaie de se concentrer, regarde attentivement dans l'oreille. Elle n'en est pas sûre. Elle croit même rêver. Se tromper, confondre avec le bruit des bêtes, mais non. Non, ce ne sont pas des voix. Ce n'est pas possible. Alors, ça doit être le vent ou son esprit qui lui joue des tours. Elle se remet en marche. Le mouton est maintenant loin devant elle, mais la voix reprend. Jeanne, Jeanne. La jeune fille sursaute. Mais non, c'était pas vrai. Cette voix encore? Jeanne se retourne dans tous les sens, semble se débattre avec l'air, observe de tous les côtés. Elle va même jusqu'à fouiller dans les buissons alentour pour s'assurer qu'on ne lui fait pas une mauvaise blague. Mais non, rien, rien du tout. Pas une âme qui vive, pas un de ses frères ou un enfant du village qui se moquerait d'elle. Personne. Seulement les moutons. Et alors qu'à nouveau elle se met à douter, à douter de ses sens, à douter d'elle-même, à douter de la voix, elle entend distinctement cette voix. N'aie pas peur, Jeanne. Tu ne rêves pas. Tu n'as rien à craindre. Le ventre de Jeanne se serre. Son cœur bat la chamade. C'est une voix. Une voix, pas l'ombre d'un doute. Mais qui est-ce? Et d'où vient-elle? Que lui veut-elle? Et surtout, comment est-ce possible? La jeune fille se bouche les oreilles, prise de panique, espérant étouffer les échos de cette voix qui tente de l'appeler. À quelques mètres de là, les moutons poursuivent leur marche habituelle avec nonchalance. Bientôt, toutes les bêtes l'ont dépassée. Roger, lui, est perdu. Jeanne est seule, au milieu du chemin. Elle pousse un hurlement de peur, d'impuissance, de solitude. Après quelques secondes de silence, elle se met à courir à toute vitesse vers la maison familiale, laissant les bêtes derrière elle et prête à tout pour échapper à cette voix. À bout de souffle, elle s'enferme et s'assied par terre, dos contre la porte. C'est seulement à cet instant qu'elle aperçoit son grand frère dans la pièce de vie. Jeanne sursaute. Son frère l'interroge. « Mais enfin, Jeanne, qu'est-ce que t'as? Bah, t'es pâle comme un linge. T'as vu un esprit ou quoi? Et les bêtes? Ils sont où, les moutons ?» Mais sa sœur ne l'entend pas. Jeanne a déjà quitté la pièce, bousculant son frère au passage. Elle s'engouffre dans la pièce au fond de la maisonnette. Elle a besoin de calme pour retrouver sa lucidité et... essayer de comprendre ce qui vient de lui arriver. Les semaines passent, sans nouvelles apparitions de la voix. Jeanne a bien été tentée d'en parler à ses amis ou à ses frères, mais personne ne pourrait la comprendre. Comment leur expliquer qu'elle a entendu une voix en pleine campagne alors qu'il n'y avait personne à des kilomètres à la ronde, si ce n'est les moutons? Comment expliquer l'inexplicable? Il la prendrait pour une folle. Alors dans sa tête, à force d'y penser, de chercher des explications rationnelles à ce qui lui est arrivé, Jeanne se met à douter d'elle. Peut-être a-t-elle rêvé, tout imaginé. Elle était sans doute fatiguée, prise d'une hallucination. Oh, c'est vrai, il faisait chaud ce jour-là. Le soleil lui a peut-être tapé trop fort sur la tête. Ses pensées tournent en boucle alors qu'elle se repose dans le jardin. Les reflets du soleil de la fin de journée lui caressent le visage. Elle ferme les yeux, se laisse doucement bercer par cette chaleur réconfortante et les bruits de la campagne environnante. Quand soudain, Jeanne, écoute-moi. Ne prends pas peur cette fois. Tu es en sécurité, Jeanne. Tu ne rêves pas. Tu n'es pas folle. Je suis venue te délivrer un message. Jeanne écarquille les yeux, se redresse soudainement. La même lumière s'est emparée de l'air, juste devant elle. Une lumière chaude, réconfortante, presque angélique. Oh non, non, pas encore, pas une nouvelle fois, non! Mais la voix ne cesse pas de parler, ne laissant pas à Jeanne l'opportunité de se débattre avec ses pensées. C'est comme si la voix prenait toute la place et la possédait depuis l'intérieur. Ta pureté et ta piété font de toi une messagère de Dieu. Tu libéreras le royaume de France de l'envahisseur et conduiras le dauphin sur le trône. Garde la flamme de ta foi, brûlante et vive au fond de toi. Subitement, la voix se tait. Jeanne reste un instant interdite, comme tétanisée. Non, elle n'en croit pas ses oreilles. Elle a besoin de quelques minutes pour se remettre de ses émotions et intégrer le message qui lui a été transmis. Cette fois, elle en est sûre. Elle ne rêve pas. Est-ce Dieu? Mais comment? Et surtout, pourquoi? Oui, pourquoi elle? Enfin, elle n'a que 13 ans après tout. Oui, son âme est pure. Sa bonté, sans égale. Oui, sa foi est sans faille. Mais elle lui cause déjà bien assez de soucis comme ça. Dans le village, les moqueries des enfants sont de plus en plus violentes. Ses amis se comptent sur le doigt d'une main. Les autres bambins ne veulent plus jouer avec elle. Ils la trouvent étrange. Alors, peu à peu, la jeune fille s'est isolée et renfermée sur elle-même. Oh, bien sûr, cela n'impacte en rien sa ferveur. Dans son rapport avec Dieu, elle trouve même du réconfort et la capacité de pardonner. Mais malgré tout, Jeanne se sent très seule. Alors, pourquoi elle? Pourquoi cette voix divine? Pourquoi Dieu s'adresse-t-il à elle? Qui plus est, avec une telle mission. Jeanne se remémore les paroles de la voix divine. Tu libéreras le royaume de France de l'envahisseur et conduiras le dauphin sur le trône. Garde la flamme de ta foi, chaude au fond de toi. Jeanne n'est cependant pas au bout de ses surprises. Maintenant qu'elle a accepté que cette voix divine s'adresse à elle, les apparitions se font plus régulières. D'abord tous les mois et puis chaque semaine. Et cette voix, elle n'est plus seule. Ce sont maintenant celles de différents saints qui viennent lui rendre visite. Au fur et à mesure, à force de conversation, la jeune fille a pu les identifier. Sainte Catherine et Sainte Marguerite, toutes deux vierges martyres du IVe siècle. Elle reconnaît aussi l'archange Saint-Michel sous les traits d'un chevalier. Tous lui confient cette même mission. Conduire le dauphin à Reims pour le faire sacrer et libérer la France des Anglais et de leurs alliés bourguignons. Nous sommes en effet en plein cœur de la guerre de Cent Ans qui durera en réalité, si comme moi vous l'ignoriez, 115 ans. La France est en piteux état. Depuis 1338, elle fait face aux assauts de l'Angleterre. Jeanne n'a donc connu que ça, la guerre et encore la guerre. Le pays est tout simplement coupé en deux et dirigé par deux rois. D'un côté, le roi d'Angleterre Henri VI, dont les armées sont alliées aux Bourguignons et occupent la moitié nord de la France. Il est l'héritier légitime et reconnu par l'Église, l'université et le peuple de Paris. De l'autre côté, on trouve Charles VII, le dauphin Charles, qui tient non sans mal les provinces au sud de la Loire. Déshérité, non sacré, sans le sou ni véritable soutien, il est appelé le petit roi de Bourges. C'est lui que les voix ordonnent à Jeanne d'aider à monter sur le trône. Tandis que la guerre et les rêves de conquête ne cessent, les voix saintes continuent elles aussi. Elles se font d'ailleurs de plus en plus pressantes. Un lourd poids repose sur les épaules de Jeanne. Elle se doit d'honorer sa mission. Pourtant, pendant 4 ans, la jeune fille se terre dans le silence. Ayant peur de révéler ses apparitions à qui que ce soit, ayant peur qu'on la prenne pour une folle, une menteuse. En décembre 1428, alors que Jeanne reçoit des nouvelles du siège d'Orléans, elle n'y tient plus. Elle demande à son père l'autorisation d'aller à Buret, un village proche de Domrémy, prétextant aller aider une cousine. Une fois là-bas, elle met son plan à exécution, tout raconter et convaincre l'époux de sa cousine de l'emmener rencontrer Robert de Baudricourt, le capitaine de Vaucouleurs. Et cela n'est pas une mince affaire. Heureusement, l'époux de sa cousine la croit et ne remet pas sa parole en doute. La démarche n'en est pas moins compliquée. Jeanne n'a pas d'autorisation parentale pour voyager, ce qui, vous vous en doutez bien, est inconcevable pour une jeune fille de son âge à cette époque. D'autant que la demande que la jeune fille tient à adresser à Robert de Baudricourt est audacieuse, pour ne pas dire téméraire. Obtenir une lettre de crédit qui lui permettrait de rejoindre la cour et de pouvoir s'enrôler dans les troupes du dauphin. Une fois sur place, c'est la douche froide. Robert de Baudricourt conseille à son chaperon de ramener Jeanne chez ses parents après lui avoir administré une bonne gifle en prime. Ah, c'est que l'homme n'est pas tendre. Ceux qu'on qualifie d'illuminés ne se font pas rares à l'époque. Jeanne n'est en effet pas la première à prétendre entendre des voix divines et à se présenter comme une sauveuse, celle qui mettra enfin un terme à cette foutue guerre. Penaude, blessée, en colère de ne pas être crue après avoir déjà tant hésité à se confier, Jeanne ne baisse pourtant pas les bras. Les voix lui redonnent confiance, confiance en sa destinée. Quelques mois plus tard, elle se rend à nouveau à Vaucouleurs. Dotée d'un grand charisme, elle a maintenant davantage d'assurance et d'aplomb. Hors de question de se faire réduire au silence par des hommes qui pensent savoir mieux qu'elle ce qu'elle entend et ce qu'elle voit. Face à sa détermination sans faille, Robert de Baudricourt, qu'il avait virulemment congédié quelques mois auparavant, ordonne à son curé de s'assurer que le diable n'est pas en elle. Et cette fois, ça y est, enfin, après ces quelques vérifications coutumières, le seigneur donne à Jeanne une escorte pour se rendre jusqu'à Chinon, afin d'y rencontrer le dauphin. Nous sommes le 12 février 1429. Jeanne a 17 ans. Sa mission peut enfin commencer.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte un destin hors du commun. Celui d'une jeune fille qui, à peine âgée de 17 ans, s'apprête à bouleverser l'histoire de France en pleine guerre de 100 ans. Depuis 4 ans, de mystérieuses voix lui apparaissent, des émanations de saints qui lui disent tous de libérer le royaume de France des Anglais et de conduire le dauphin, futur Charles VII, sur le trône. Cette jeune fille, c'est Jeanne d'Arc. Après s'être murée dans le silence pendant des années, elle est enfin écoutée et crue, au point de lui offrir une escorte de quelques hommes pour aller rencontrer le dauphin en personne. Avant de se mettre en route, Jeanne se trouve des vêtements d'homme et se coupe les cheveux en écuelle à la mode masculine de l'époque. Mais cela ne doit pas vous dire grand-chose, c'est vrai. Alors soyons plus explicites. Ses cheveux étaient taillés en rond au-dessus des oreilles, avec la nuque et les tempes rasées. Une coiffure, ainsi qu'un genre vestimentaire qu'elle gardera jusqu'à sa mort. La troupe se met alors en route le 22 février 1429. Elle traverse sans encombre les terres bourguignonnes et parvient à Chinon, après une dizaine de jours de voyage. Là, une lettre de Baudricourt arrive comme prévu, invitant Charles VII à rencontrer Jeanne. Le 11 mars, la rencontre tant attendue arrive, enfin. C'est aujourd'hui. Jeanne va enfin pouvoir rencontrer le dauphin. À peine entrée dans la grande salle du château, elle parvient à le reconnaître dans l'assemblée, alors qu'il porte des vêtements simples et qu'elle ne l'a jamais vu auparavant. Immédiatement, elle se présente à lui. « Dauphin, je me prénomme Jeanne. Le roi des cieux me commande de vous emmener à Reims afin de vous faire sacrer. Des voix divines s'adressent à moi depuis plus de 4 ans maintenant. Elles m'exhortent à libérer le royaume de l'envahisseur et à vous conduire sur le trône. Plusieurs de mes visions se sont déjà révélées vraies et mes talents de guérisseuse font d'ores et déjà ma renommée. Nous ne pouvons ignorer, face à l'urgence de la situation, la parole divine et le commandement de Dieu. » Le dauphin est surpris face à tant d'énergie, d'assurance et d'aplomb. Il lui propose de s'entretenir en privé. Nul ne sait ce qui se dit, mais tous les sujets présents peuvent en témoigner. Le roi est sorti de cet entretien le visage éclairé et plus apaisé que jamais. À cette période, et depuis un certain temps déjà, il est en effet au plus mal. On peut même dire que la situation n'a jamais été aussi critique. Rappelez-vous, déshérité, non sacré. Le petit roi de Bourges a peu de soutien. Les Anglais ont mis le siège devant la ville d'Orléans, qui est la porte d'entrée vers le sud-ouest. La position est stratégique. L'enjeu est de taille. Les Anglais désirent en finir définitivement avec le dauphin. Jeanne, sa fougue, sa détermination et ses promesses divines sont d'une certaine façon le dernier espoir du dauphin. Il se montre d'abord méfiant. Mais il n'a rien à perdre, vu la situation désespérée. C'est donc sur une fille de paysan, à peine âgée de 17 ans, que repose l'ultime tentative de sauver le royaume de l'invasion anglaise et bourguignonne. Sans attendre, le dauphin lui fournit une armure et accepte de l'intégrer à l'armée de renfort qui doit partir secourir la ville assiégée. À présent parée, il n'y a plus une minute à perdre. Fin avril, après avoir constitué sa mission militaire, Jeanne part pour Orléans. Il ne faut que quelques jours pour donner raison au dauphin. Par sa présence, Jeanne, qu'on surnomme maintenant Jeanne la Pucelle en raison de son jeune âge, galvanise l'armée. Elle devient une véritable chef de guerre et étonne ses compagnons d'armes par sa dextérité à monter à cheval et à manier la lance. Plus encore, pas un seul soldat n'ose s'opposer à elle. Tous ont un cœur de lui obéir. Ils ne jurent plus. Jeanne renvoie même les prostituées qui s'attachent d'ordinaire au convoi sans que personne ne bronche. Mais ce n'est pas tout. Des prêtres portant bannière récitent des prières et confessent les soldats. Du jamais vu en temps de guerre. Même les compagnons de Jeanne les plus crapuleux, violents et connus pour leurs exactions, lui vouent un respect frôlant la vénération et n'ont aucun mal à changer de mœurs et de langage en sa présence. Quand elle arrive à Orléans, la ville est assiégée depuis plus de 6 mois au bord de la reddition. Il n'y a plus de ressources. Les soldats sur place sont autant épuisés que désespérés. Charles d'Orléans étant fait prisonnier, c'est son demi-frère, un enfant bâtard, qui défend courageusement la ville. Pourtant, après tant de mois de guerre, tous font peu à peu l'amer constat de la défaite à venir. Jeanne, portée par sa foi, redouble d'énergie pour leur donner confiance à nouveau, leur offrir cet espoir, cette lueur nécessaire si on espère gagner une bataille. Comme il était coutumier de le faire, elle décide d'envoyer une missive aux Anglais pour les prévenir de sa venue et leur ordonner de quitter la ville. Les troupes, qui voient en elle une sorcière malfaisante, refusent. qu'importe. De leur plein gré ou par la force, Jeanne reprendra le contrôle de la ville. Elle décide d'attaquer les deux bastides anglaises qui se trouvent dans la région. Et c'est un succès. Mais Jeanne refuse d'en rester là. Elle ameute la population qui l'accueille avec enthousiasme. Tous se préparent durant la nuit. C'est demain qu'ils reprendront le contrôle total de la ville. Demain ou jamais. Le lendemain, l'assaut est donné. La forteresse est plus redoutable que jamais. Les Anglais, engourdis par leur domination depuis tant de semaines, sont surpris. Ils paniquent. Le chef des troupes anglaises décède au cours de l'affrontement. Dans la nuit du 7 au 8 mai 1429, soit seulement 10 jours après l'arrivée des troupes, les Anglais sont forcés de lever le siège de la ville. Orléans est sauvée. En si peu de temps, après tant d'efforts, cela tient du miracle. La nouvelle se répand rapidement à travers toute la France. Jeanne est la libératrice de la ville. On lui attribue le surnom de « Pucelle d'Orléans ». Tandis que ce sauvetage prouve le caractère divin de la mission de Jeanne aux yeux des Français, pour les Anglais, elle est au contraire envoyée par le diable en personne. Forte de ce premier succès, Jeanne d'Arc n'est pas prête de s'arrêter. Sa mission est loin d'être terminée et les voix divines l'accompagnent toujours pour la guider. Comme elle l'avait prédit, elle doit maintenant conduire le dauphin à Reims afin de le faire sacrer roi de France. La route est cependant périlleuse et le pari risqué. Reims est cernée par des possessions anglaises et bourguignonnes. Il leur faut donc traverser plusieurs villes sous domination. Des villes qui n'ont aucune raison d'ouvrir leurs portes et qu'il semble très compliqué de pouvoir contraindre militairement. Pour ouvrir la route jusqu'à la ville, les armées libèrent Auxerre, Troyes ou encore Châlons. Après plusieurs semaines, Jeanne et ses troupes arrivent miraculeusement à Reims avec le futur roi, sain et sauf. Le 17 juillet, une douce lumière traverse les vitraux de la cathédrale de Reims. À l'intérieur, si vous parvenez à vous faufiler parmi la foule ou si par miracle, vous faites partie de la liste des invités, vous pourrez y voir le dauphin prêt à recevoir le Saint-Crème. À ses côtés, Jeanne porte son étendard. Charles VII est sacré roi et enfin légitimé. Il n'y a plus qu'un seul roi en France. Il était temps. Pour beaucoup, ce sacre est interprété comme le résultat d'une volonté divine. La mission de Jeanne est accomplie et en quelques mois seulement, la victoire bascule peu à peu du côté des Français.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte un destin hors du commun. Celui d'une jeune fille qui a bouleversé l'histoire de France, Jeanne d'Arc. Guidée par des voix divines, elle expulsa les troupes anglaises et mit un terme au siège d'Orléans, qui durait depuis des mois. Forte de ce succès, adulée par la population et respectée par ses soldats, elle mena le dauphin jusqu'à Reims afin de le faire sacrer roi de France. Peu à peu, ses missions divines, celles qui lui ont été confiées, se remplissent une à une. Pourtant, alors qu'enfin elle obtient la reconnaissance qu'elle mérite, tout ne se passe pas comme prévu. Suite à ces différentes victoires, Jeanne tente de convaincre le roi de reprendre le contrôle de Paris, alors aux mains des Bourguignons et des Anglais. Mais depuis son couronnement, ce dernier se montre dédaigneux envers la jeune chef de guerre et surtout hésitant, trop hésitant en ces temps de guerre. Il perd un temps précieux. Tandis que Jeanne se dirige vers Paris, le roi préfère négocier avec le duc de Bourgogne. Ces quelques semaines perdues sont fatales. À Paris, les Anglais ont eu le temps de se préparer. Jeanne donne l'assaut, un assaut qui se finit dans le sang. La jeune femme est blessée par un carreau d'arbalète. Le roi Charles VII décide finalement de lever le siège. L'argent et les vivres manquent et puis la discorde règne au sein de son conseil. Il n'en faut pas plus. L'armée est dissoute. Il ne veut pas la guerre, mais la négociation. Une fois remise sur pied, Jeanne ne reste cependant pas les bras croisés. Avec ou sans le roi, elle se battra et accomplira sa mission. C'est que la guerre et mener les troupes, elle aime ça, Jeanne. Surtout quand au fond d'elle-même, elle sait que la cause est juste et que les voies célestes ne cessent de la guider. Elle s'entoure de chevaliers fidèles et recrute des mercenaires, mais rien n'y fait. Jeanne d'Arc, malgré sa fougue et son entrain, manque de renforts et de munitions. Les campagnes entreprises sont toutes des échecs. Le jour de Pâques, cependant, elle attend des renforts du roi. Il les lui a promis. À ce stade du combat, pouvoir disposer de soldats supplémentaires est crucial. Le temps passe et pas de troupes à l'horizon. Jeanne les attend, en vain. Elle décide alors de défendre la ville de Compiègne qui est assiégée sans eux. Les habitants ont besoin d'aide ou la ville tombera. Les combats font rage depuis plusieurs jours. Le 24 mai 1430, l'assaut est fatal. Jeanne, téméraire, s'engage trop loin et se trouve face à une contre-attaque bourguignonne. Alors que les soldats battent en retraite, Jeanne reste la dernière sur le champ de bataille, protégeant ses troupes. Alors qu'elle s'apprête à rentrer dans la ville et qu'elle n'est plus qu'à quelques enjambées du pont-levis, il est subitement levé devant elle. Trahison, vous dites ? Ou simple imprudence ? Eh bien, je me pose la question aussi. Malheureusement, nous ne pourrons jamais lever le voile sur ce mystère. Jeanne est désemparée. Elle n'a pas le temps de trouver d'autres issues. À peine prend-elle conscience de ce qui lui arrive qu'elle est violemment jetée de son cheval et faite prisonnière par un seigneur bourguignon. Par deux fois, Jeanne tente de s'échapper, allant même jusqu'à sauter depuis la tour du château dans lequel elle est enfermée. Elle essaye, mais rien n'y fait. Ses prières n'auront aucun effet. Quelques mois plus tard, elle est vendue aux Anglais pour 10 000 livres. Ils l'emmènent à Rouen, où se situe leur quartier général. En janvier 1431, soit plus de 7 mois après son arrestation, une enquête est ordonnée. Jeanne est interrogée sans ménagement. Mais aucun chef d'accusation légitime ne peut être retenu. Le procès commence alors le 21 février 1431, sans réel motif, dans la chapelle royale du château de Rouen. Elle se retrouve seule, sans défense, face à un tribunal ecclésiastique composé de près de 40 personnes, alliées aux Bourguignons et donc aux Anglais. Faute de mieux, il lui est reproché de porter des habits d'homme, d'avoir quitté ses parents sans qu'il lui ait donné congé et de s'en remettre systématiquement au jugement de Dieu, plutôt qu'à celui de l'Église. Et puis les juges estiment que les voix qu'entend prétendument Jeanne sont en fait inspirées par le démon. Septante chefs d'accusation sont finalement trouvés, rien que ça. Jeanne d'Arc est accusée d'être schismatique, apostate, menteuse, devineresse, hérétique, errante en la foi et finalement blasphématrice de Dieu et des saints. Ah, on peut difficilement faire plus. D'autant que le procès est un procès d'inquisition. Le but n'est pas d'établir l'innocence ou la culpabilité de Jeanne, mais de lui faire avouer ses fautes. Fort heureusement, Jeanne ne se démonte pas. Oh, c'est qu'elle en a vu d'autres. Ce n'est pas la première fois que sa vie est en jeu et elle est même prête à la sacrifier pour sa mission. Mais cette fois, le champ de bataille est différent. Jeanne n'en maîtrise pas toutes les règles face à une armée de juristes, théologues et membres de clergé. Pourtant, la jeune femme d'à peine 19 ans se défend bien, sans jamais se contredire et en restant cohérente. Et ce, malgré les pièges et le saugrenu des questions des juges. Je vous laisse en juger par vous-même, avec la question posée par le tribunal en ces termes. Quel aspect avait Saint-Michel quand il vous est apparu ? Était-il nu ? À laquelle Jeanne répond. Pensez-vous que Dieu n'ait pas de quoi le vêtir ? Avait-il des cheveux ? Insiste le tribunal. Et Jeanne de rétorquer. Et pourquoi les lui aurait-on coupés ? Jeanne, encore et toujours, résiste et n'avoue aucun des crimes qui lui sont reprochés. Il ne reste qu'un seul argument, l'habit d'homme. Pourquoi s'obstine-t-elle à porter un tel accoutrement ? Jeanne explique que ce sont les voies qui lui imposent. Rappelons également que cela est plus pratique pour le voyage et tout simplement indispensable pour le combat. Pour le tribunal, le motif est tout trouvé. Il est inconcevable que les voies, soi-disant d'origine sainte, commandent une pratique vestimentaire condamnée par Dieu dans l'Ancien Testament. La conclusion est sans appel. Les voies sont démoniaques et Jeanne est instrumentalisée par le diable, ni plus ni moins. Le 23 mai 1431, dans le cimetière de Saint-Ouen, une mise en scène a lieu. Après un réquisitoire d'une rare violence, on annonce à Jeanne qu'elle est condamnée au bûcher. Cette fois, c'en est trop. Jeanne est terrorisée, alors elle craque, reconnaît les péchés qu'on lui reproche et s'engage à porter des vêtements féminins afin d'avoir la vie sauve. Cette abjuration satisfait les juges qui la condamnent à la prison à vie au lieu de la brûler vive. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Et le tribunal sait très bien ce qu'il fait. Dans sa cellule, le soir même, Jeanne est battue et sans doute violée. Voilà donc la vie à laquelle elle est condamnée, jusqu'à la fin de ses jours. Rapidement, rattrapée par sa foi qui lui fait combattre la peur de la mort et de la douleur, et face à l'amer constat que lui promet le reste de son existence enfermée, elle revient courageusement sur ses propos. Elle dit ceci. « La seule peur immense d'être brûlée vive m'a fait avouer des péchés que je n'ai pas commis. Pas un jour, je n'ai cessé d'agir pour Dieu, guidée par les voies des saints. » Avec une telle affirmation, Jeanne sait très bien ce qui l'attend. Elle est considérée comme relapse par la justice ecclésiastique. À nouveau, elle commet les mêmes erreurs. Son seul horizon est la mort. Nous sommes à Rouen, le 30 mai 1431. Il est 9h. Jeanne d'Arc a 19 ans. Cela fait un an maintenant qu'elle croupit au fond d'une cellule, qu'elle ne connaît plus rien de l'air frais et libre qui caresse son visage, de la lumière naturelle qui réchauffe sa peau et rosit ses joues, des voix de ceux qu'elle aime qui dessinent un sourire sur son visage. Elle caresse la pierre humide sous ses doigts. Jeanne est transie par le froid, il la saisit, pénètre sa peau jusqu'à ses os. Elle n'entend que le clapotis régulier d'une nuée de gouttes qui s'écoule depuis le plafond. Tout d'un coup, un bruit de bottes retentit dans le couloir de la mort et la tire de sa torpeur. C'est l'heure. Jeanne est conduite sur la place du Vieux Marché, au cœur de la ville de Rouen. On la place, après le prêche et la lecture de sa sentence, en hauteur, sur une estrade maçonnée, afin qu'elle soit vue de tous les habitants et curieux venus assister au cruel spectacle. Ses mains sont liées derrière un poteau pour l'empêcher de bouger. Doucement, le bourreau s'approche de la jeune femme, un pas après l'autre. Il allume la torche imbibée d'alcool qu'il tient à la main et de son flambeau assassin met le feu au bûcher. Ainsi s'achève, par le feu et le sang, la vie courte mais saisissante de Jeanne d'Arc. Une trajectoire météorique, une foi inébranlable, même par-delà la mort. Un destin tragique qui a marqué l'histoire de France, entre prouesses sur le champ de bataille et lumière divine. S'il ne resta rien de son corps pour éviter tout culte posthume, son nom et son courage restent, aujourd'hui encore, gravés dans les mémoires. Voilà pour ce récit passionnant que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la plume de Pauline Chaudat.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.